Philosophie de la matière par le père Philippe Arimon, le 24 novembre 1988.
Nous allons continuer ce que nous avions commencé l'année dernière. Du scolaire, la recherche de la cause matérielle. Nous l'avions vu en physique. Nous allons la voir maintenant en philosophie du vivant, avec les parties des animaux. Vous voyez, le Peripsuchès, le livre sur l'âme, donc montre tout le point de vue de l'âme. Et, il ne faut pas l'oublier, c'est le livre qui commande toute la philosophie du vivant. Mais, il y a tout un développement de la philosophie du vivant qui n'est pas donné dans le Peripsuchès. Il ne faut jamais oublier qu'il nous est donné dans les parties des animaux. En premier lieu, tous les livres, faire la synthèse de tous les livres de la philosophie du vivant et voir que chacun développe une des causalités. Alors, ayez toujours ceci devant l'esprit. Ce qui est mu, donc les réalités physiques, Heidegger après appellerait les étangs, les réalités que nous pouvons expérimenter directement. La recherche philosophique fait découvrir la nature, forme, et la nature, matière. Donc, n'oublions pas avant la philosophie de la nature, selon l'ordre génétique de notre pensée, la première découverte de la distinction de la matière et de la forme se fait au niveau de l'œuvre artistique. J'en suis de plus en plus convaincu, ce que la scolastique avait complètement laissé tomber. Et en scolastique, on croit que c'est ici le premier analogué, c'est-à-dire la distinction spéculative de la nature forme et la nature matière. Et on dit que la première chose qu'il faut regarder, c'est l'étude de la philosophie de la nature. Alors que selon l'ordre génétique, et c'est important de se le rappeler, parce que l'ordre génétique est toujours l'ordre du conditionnement, selon l'ordre génétique, la première connaissance philosophique que nous avons, c'est l'œuvre artistique. L'œuvre artistique nous permet tout de suite de distinguer matière et forme. Donc quand on parle de la distinction matière et forme, et non pas nature-forme et nature-matière, la première distinction, c'est ici, selon l'ordre génétique. C'est cela qui conditionne toute notre intelligence. Vous voyez ? Je ne dis pas détermine. Hein ? Et je crois que Gilson, là, a confondu l'ordre génétique et l'ordre de nature. En bon sorbonnard. Parce que Gilson a d'abord été formé par Descartes. Hein ? Puis s'est converti. Et là, il y a toujours quelque chose qui est resté. C'est très curieux, ça. C'est que, de fait, le conditionnement premier de notre intelligence, c'est matière et forme. Ce qui permet, ce qui nous fait comprendre comment Aristote parlera de la cause selon la forme, le kata. Selon la forme. Ce qui montre bien le conditionnement. Ce que l'intelligence saisit, c'est la cause, selon la forme, le conditionnement. Oui, la première distinction que nous avons au point de vue de la vie intellectuelle, dès que nous analysons, c'est matière et forme. Mais cette distinction est premièrement découverte dans l'œuvre d'art. Ce qui fait comprendre ce qu'Aristote dit dans la métaphysique, si l'œuvre artistique était la réalité, l'eidos serait substance. Ça, c'est une parole extraordinaire d'Aristote par rapport à Platon. L'eidos serait substance. Vous voyez ? Autrement dit, si nous confondons l'ordre génétique et l'ordre nature, si nous confondons le conditionnement de notre pensée avec la détermination de notre pensée, la forme est substance. Ce que dit Tricot, ce que dit Gilson. Vous voyez, là, on saisit bien quelque chose de très très important. Parce que pour Aristote, la substance n'est pas la forme. Alors, tant qu'on n'a pas compris ça, on ne comprend pas ce que c'est que la métaphysique d'Aristote. On fait de la métaphysique une super connaissance artistique. Vous voyez, on projette la connaissance artistique sur la réalité. Donc on parle d'une idée. Et on reste dans l'ordre des idées, donc Descartes. C'est très très important de saisir ça. Vous voyez, parce que là on est vraiment au point de départ. Et ça explique pourquoi on l'avait vu en physique. Pourquoi Aristote fait constamment appel à la connaissance artistique, à tel point que certains qui n'ont pas bien compris Aristote et qui comprennent un petit peu matériellement disent la connaissance artistique commande toute la physique d'Aristote. Ça commande notre connaissance au niveau du conditionnement, mais pas au niveau de la saisie propre. C'est pour ça qu'Aristote parle tout le temps de la phusis. Or, la phusis, c'est juste l'inverse de l'œuvre de la... Du moins, la phusis n'est pas l'œuvre artistique. L'œuvre artistique imite la phusis et la complète. Ça, c'est dit textuellement. Donc, découvrant la nature forme, et il faut s'habituer à dire ça, vous voyez, ce que les scolastiques ne disent plus. Les scolastiques projettent matière forme partout. Alors que si on est précis, on dit matière-forme au niveau de l'œuvre artistique, on pourrait le retrouver dans toute la connaissance philosophique pratique. Puis au niveau spéculatif, nature-forme, nature-matière. Puis alors troisième, le vivant, ce qui se meut. Ce qui se meut. La distinction première, c'est âme et corps. Âme et corps, l'âme, et pour le vivant, la nature forme. Et le corps est pour le vivant, la nature matière. Mais il est bien évident qu'il ne s'agit pas d'identifier les deux. C'est analogiquement le même. Donc, allô, allô. C'est différent. C'est totalement différent. N'identifions pas matière et corps. Mais le corps, c'est la cause matérielle ou la cause selon la matière. Et le corps, nous allons le voir, je reste dans le point de vue des parties des animaux, le corps implique une organisation. Donc c'est une matière très évoluée. Une matière organique. Vous voyez la distinction qu'on fait en chimie et chimie organique. C'est intéressant parce qu'au fond, on retrouve des choses analogues. Le corps est organique. Donc, il implique, si vous voulez, des quantités de détermination, puisqu'il est analogue. Alors, ça fait comprendre, vous voyez, aussi, si je n'ai pas suffisamment le souci de regarder les choses dans l'ordre analogique, matière-forme, la matière de l'œuvre d'art, est toujours une matière qui implique une forme, le bois. Puisque pour le grec, oulé, c'est le bois. Donc c'est une matière qui est déjà très déterminée. La nature matière peut aller jusqu'à la materia prima. La nature matière commande la matière prima, la matière première. Pure puissance. Mais vous voyez, ça n'existe qu'au niveau spéculatif. Lorsqu'il s'agit du vivant, le corps est toujours déterminé. Dans l'ordre de la disposition. Pas dans l'ordre substantiel. C'est l'âme qui est substance. Et le corps au sens strict et n'a pas de détermination substantielle. Bien que le corps soit un principe substantiel. Vous voyez, pas si commode que ça, il faut bien déterminer. Le corps, donc au point de vue du conditionnement de l'animal, au point de vue du conditionnement du vivant, le corps va jouer un rôle très important. Il dispose, il conditionne. Nous sommes conditionnés dans toute notre vie par notre corps. Toute notre vie. Même notre pensée. Même notre vie surnaturelle. C'est pour ça que le corps sera ressuscité, parce qu'il a bien conditionné toute notre vie. Il faut lui donner une récompense. Je ne peux pas séparer l'âme et le corps. Je ne peux pas séparer la vie divine et la vie humaine. Je les distingue, mais je ne les sépare pas. Et donc mon corps conditionne toute ma vie humaine et toute ma vision naturelle. Je dis conditionne, pas détermine. Mais comme en psychologie, la distinction entre conditionné et déterminé ne se fait pas, voyez les conséquences. Vous vous souvenez, l'année dernière, on avait lu comme ça, certaines petites conférences qui disaient que le point de vue sexuel déterminait toute notre vie. On voit très bien ce que ça veut dire, ça conditionne, c'est évident. Le corps animal est conditionné et en tant que corps, vous voyez, il implique le point de vue de la génération, de la procréation. Et même pour Aristote, alors là c'est ça qui est très curieux, pour Aristote, la procréation finalise la vie animale. La vie animale est finalisée par la procréation. Donc, le point de vue sexuel, tel qu'on en parle aujourd'hui, va déterminer le point de vue de la cause matérielle. Et au plan philosophique, cette détermination n'est qu'un conditionnement. Et au point de vue psychologique, c'est une détermination. Oui, c'est très très important de comprendre ça dans toutes les discussions aujourd'hui. Pour ne pas tomber dans le panneau, quoi. Et bien comprendre ce que c'est que la cause matérielle. C'est pour ça que c'est très important les parties des animaux. Je ne sais pas si on pourrait aller jusqu'au bout pour voir, par exemple, les paupières, le rôle des paupières, hein, c'est important. Place privilégiée de l'homme. On verra la place privilégiée de l'homme, ça, parce que c'est tellement important. C'est très très important, la place privilégiée de l'homme. Mais on va d'abord lire ce qu'on avait vu l'année dernière, mais je le reprends, parce que il y en a des nouveaux qui n'étaient pas là. Alors, place, donc, le livre premier des parties des animaux. Il y a une traduction aussi du Père Leblanc. Je prendrai peut-être les deux traductions de temps en temps. Oh non, pas probablement. Mais oui, pour la montrer, oui. Oui, oui. Je prendrai les deux. Mais ceux qui voudraient l'utiliser, il faut, pendant que je ne suis pas là, il ne faut pas qu'elle soit fermée chez moi. Alors je demanderai qu'on la mette à la disposition, et quand je donne le cours, on le donne. Le Père Leblanc, qui est un père jésuite, qui aime Aristote, à sa manière, a fait une très bonne introduction, qui est intéressante. Le philosophe de la vie. La place de la biologie dans l'œuvre d'Aristote. Je ne suis pas toujours d'accord, loin de là, avec le père Leblanc. Mais c'est intéressant. C'est quand même quelqu'un qui a étudié Aristote. Et qui l'a étudié avec sympathie. Vous voyez ? Pour étudier bêtement Aristote, avec sympathie. Alors, en tout genre de spéculation et de recherche, peripassan theorian tekai methodon. C'est très intéressant de voir le couple theorian et methodon. Methodon, la méthode. Odos, n'oubliez jamais en grec, hein, odos, c'est la voie, c'est la rue. Première fois que vous allez à Athènes, vous voyez odos, rue d'Alexandre. Alors vous voyez odos, vous êtes tout étonné de voir odos. Méta odos, c'est la méthode. Alors vous voyez ce que ça veut dire, méthode. J'indique une voie. J'indique une voie, c'est ça. C'est la voie, c'est la rue. Quand vous ne savez pas travailler, vous prenez une méthode, une rue. Et théoriane, c'est la contemplation. Alors vous voyez les deux mêlés. Le conditionnement et la finalité. Très très joli de montrer les deux. Peripassan théorian kai methodon. Dans le langage de saint Thomas, ce serait intellectus ratio. Ratio, c'est la méthode. Intellectus théorian. Donc, en tout genre de spéculation et de recherche, la plus banale comme la plus relevée, il semble qu'il y ait deux attitudes possibles. Et c'est très général et c'est très intéressant comme introduction. Et Aristote souligne, n'est-ce pas, dans toutes les timothéranes, la contemplation la plus noble, la plus élevée et la plus banale. Tapei noteran, n'importe quoi, la psychologie. Donc en toute méthode, aussi bien la métaphysique que la psychologie, vous trouverez toujours théorian et méthodon. Il y a deux attitudes possibles. Alors là, très intéressant, à l'une convient le nom de science de l'objet. Donc, épistémène, tout pragmatos, kalos et kai. Alors, quand il dit science de l'objet, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut traduire. Science de la réalité. Vous voyez, ça, c'est les confusions de la philosophie contemporaine. On identifie objet et réalité. Alors, la réalité n'est pas l'objet. Deux choses différentes. Je n'ai pas l'intuition. Vous voyez, si je pousse jusqu'au bout, on aurait la conception de Garaudy sur la connaissance. La connaissance est un reflet. Alors à ce moment-là, si la connaissance est un reflet, la réalité est objet. Si la connaissance n'est pas un reflet, mais implique une assimilation par l'appréhension, l'objet n'est pas la réalité. Oui, l'acuité n'est pas la réalité. La réalité, je l'atteins dans le jugement, mais pas dans l'appréhension. Et c'est l'appréhension qui détermine, qui est l'objet. Donc, à l'une convient le nom de science de l'objet. Hein, il a répété la même chose. Hein. Alors, tout pragmatos, c'est de la réalité. À l'autre, celui d'une certaine espèce de culture. Alors là, c'est très bon. Den oion paideiantina. Paideiantina, c'est pas tout à fait culture, paideian. C'est plutôt une éducation. La paideia, c'est l'éducation. La culture n'est pas l'éducation. Païdéian, c'est plus dans la recherche. Oui, alors, Aristote la distingue deux aspects de regarder les réalités. C'est très actuel, vous savez. Est-ce que la science moderne n'est-elle pas une païdéian? Je cherche les lois. Je cherche la possibilité de... C'est plus la réalité. Mais on s'arrête plus à la méthode. La méthode est une païdéian. Et quand je contemple la réalité. Alors vous voyez, il y a quelque chose qui est très intéressant là. Quand Aristote distingue les deux, je crois qu'on peut dire ceci, vous voyez. Donc, théoria. Théoria, c'est quelque chose, on traduit contemplation. Mais c'est contemplation au sens très large. Théoria, j'allais presque dire connaissance réaliste. La théoria regarde la réalité existante. Et puis, méthode. Alors, est-ce qu'il n'y a pas... Toute connaissance implique les deux. Et il y a une mise en lumière de la méthode et une mise en lumière de la réalité. Les deux aspects. Ou je m'attarde à la méthode, j'ai une païdéia. Grâce à la méthode, j'ai une éducation. Vous voyez? Et si je contemple, j'ai une connaissance qui cherche la réalité. Autrement dit, si vous voulez, il y a deux espèces de gens qui connaissent. Les gens qui sont saisis par la réalité qu'ils regardent et les gens qui regardent la manière dont ils regardent. Ils statent le pouls, toujours, toujours. Et quand on state le pouls de trop, on s'arrête au pouls. Il y a des gens qui statent le pouls tout le temps, tout le temps, tout le temps. La manière dont ils saisissent. Et puis au contraire, la réalité qu'on saisit. Aussi très actuel. Vous voyez, quand à Fribourg, un bon professeur disait, il a commencé son cours comme ça, je n'ai pas assisté, mais vous savez, il m'a dit, avant, les Grecs regardaient l'objet. Les modernes regardent la méthode. Puisque nous sommes modernes, nous regardons la méthode. Oubliant que regarder la méthode, ce n'était pas la philosophie. C'est la critique, c'est la logique. Et ça, je crois que c'est très juste. Hein. Depuis Kant, on regarde la méthode. Pour un Allemand. Pour un Français, depuis Kant, depuis Descartes, on regarde la méthode. Tant en philosophie qu'en théologie. On ne regarde plus le mystère en théologie. On ne contemple plus le mystère. On regarde la manière dont on va saisir le mystère. Donc on s'arrête à la parole de Dieu en tant qu'elle est le reflet d'une certaine culture, d'un certain niveau de la foi à telle époque. Et on ne regarde plus la signification profonde de la parole de Dieu qui conduit au mystère. Je crois que c'est très très important, vous voyez, de bien saisir ça. Parce qu'il dit, c'est prophétique, si vous voulez, ce que dit Aristote là. C'était déjà vrai de son temps, parce qu'il y avait les sophistes. Donc, l'autre, celui d'une certaine espèce de culture. Alors, Dina Païdéian. Alors, est-ce qu'on peut traduire Païdéian culture? Les Grecs, ceux qui connaissent bien le grec, est-ce que païdéian, la fois prochaine, vous me direz ça. C'est intéressant de voir si, parce que c'est quand même très... Moi, je crois que c'est rattaché à la méthode. Il faut bien comprendre. En effet, c'est bien le propre d'un esprit cultivé. Alors, c'est bien le propre d'un esprit cultivé que de pouvoir porter un jugement pertinent sur la forme bonne ou mauvaise d'un exposé. Ah, vous voyez bien, la forme bonne ou mauvaise d'un exposé, c'est-à-dire la méthode. Est-ce que c'est kalos, mékalos ? C'est même pas bon. La manière élégante ou non élégante, c'est tout à fait ça. Un raisonnement élégant, vous savez, en mathématiques, on voit très bien, c'est kalos. C'est pas bon. Il ne faut pas traduire kalos par bon. C'est beau, c'est la beauté avant tout. Alors c'est l'élégance dans un raisonnement. Donc si le raisonnement est élégant ou pas, c'est ça qu'on regarde en premier lieu. Donc c'est bien la méthode. C'est bien la méthode qu'on regarde en premier lieu. Car c'est à cela précisément que nous reconnaissons l'homme cultivé. La différence du sauvage. Le sauvage, il regarde la réalité. L'homme cultivé, il se regarde dans la glace. Toute la différence. L'exposition qu'on avait fait à Paris sur l'évolution, vous savez bien, on montrait l'évolution de la vie à partir du tout petit animal et puis on terminait sur une glace. Et le Parisien se regardait, l'homme le plus cultivé. L'évolution, vous êtes le dernier, le témoin ultime de l'évolution. Donc il faut vous regarder dans la glace. Et c'est ça le cultivé, dans le sens où Aristote dit ici. Vous voyez, l'homme cultivé qui est pharisien de sa culture. Car le véritable homme cultivé dépassera ça. Donc, car c'est à cela précisément que nous reconnaissons l'homme cultivé et nous considérons que possède à fond cette culture, c'est montrer l'aptitude dont nous venons de parler. Avec cette restriction toutefois, que nous regardons cette personne cultivée comme capable de juger à elle seule, pour ainsi dire, de tout. Sophiste. Le rhéteur. Tandis qu'un autre n'est à même de le faire que dans un domaine déterminé. L'homme cultivé peut parler de tout. Et ça fait la culture de certaines personnes. Pour ça, il connaît une méthode. Quand vous connaissez bien une méthode, vous pouvez parler de tout. Absolument. Vous pouvez faire n'importe quelle dissertation. La méthode. Si vous avez une méthode, c'est comme ça qu'on passe les examens, vous savez bien. Peu importe le contenu, qu'une espèce d'importance, mais la méthode. Et si vous péchez contre la méthode, on mettra en la méthode et on mettra une mauvaise note. Mais c'était dit en faculté de théologie. J'ai entendu ça de mes propres oreilles. Cette thèse est parfaite au point de vue de la méthode. Quelqu'un a posé, mais les conclusions sont-elles justes? Ça n'a aucune importance. Et c'était une thèse en théologie qui voulait montrer que l'écriture ne condamnait en rien l'homosexualité. En théologie. Heureusement qu'il y avait encore certains théologiens qui avaient du sang dans les veines. Alors il a été obligé de passer cette thèse à Berne. Voilà, elle est acceptée. C'était très très joli ça. C'est la méthode. Aujourd'hui, vous passez un doctorat si la méthode que vous employez est bonne. Et si vous êtes fidèle à cette méthode. Peu importe la conclusion. Donc la vérité est relative à la méthode et non plus à la réalité. Réfléchissez là-dessus. Vous voyez, c'est capital ce qu'Aristote dit là. C'est un discernement qui est vrai de son temps. Et qui de nôtre est encore beaucoup plus vrai. La seule différence, c'est que pour Aristote, ceux qui étaient uniquement pour la païdéia, c'était un petit groupe de sophistes. Aujourd'hui, ils ont grossi. et en tout prix. Et toute l'éducation qui se fait par la télévision. Père Christophe Marie, allant à Paris pour examiner ce qui a été fait, dans les conclusions, a simplement souligné, en disant que c'est pas tout à fait juste. Alors, la journaliste a répondu, c'est ce que j'ai entendu. Oui, mais alors c'est très extérieur. Nous sommes faits pour l'extérieur. Oui, c'est ça, méthode. Ce qui se mesure. Vous voyez, ce qui est intéressant ici, et ce qui me semble important à souligner, c'est que, au-delà de l'aspect logique, Aristote souligne un aspect critique. Avec cette restriction toutefois que nous regardons cette personne cultivée comme capable de juger à elle seule, pour ainsi dire, de tout. La capacité de juger. La capacité de juger, ça c'est l'aspect critique. Il y a la méthode et la capacité de juger. Alors ça s'étend à tout. Tandis qu'une autre n'est à même de le faire que dans un domaine déterminé. Si vous regardez telle réalité, vous êtes spécialiste de cette réalité. Vous dites, dans d'autres domaines, je ne connais pas. Et de l'autre côté, vous regardez la méthode, et la méthode est universelle. Ce qui devient très faux. Parce que la méthode pratiquement varie en fonction de la réalité examinée. Mais je peux, dans un aspect logique, faire quelque chose d'universel de la méthode. On pourrait en effet en concevoir une autre qui aurait les mêmes dispositions que la première, mais à propos d'un objet restreint. Il en résulte évidemment que dans les sciences naturelles, comme ailleurs, il doit exister certaines notions que l'on pose comme règles pour apprécier la forme des démonstrations, sans se demander quelle est la vérité, si elle est ainsi ou autrement. Oui, c'est dit exactement. On abstrait la méthode de la réalité qu'elle atteint. Or, c'est la réalité qu'on atteint qui nous permet de dire si c'est la vérité ou pas la vérité. C'est vu avec beaucoup de précision, c'est très intéressant ça. Oui, pour celui qui a inventé la logique, voir le danger de la logique, le danger d'une méthode rhétorique, le danger d'universaliser la méthode. Il en résulte évidemment que dans les sciences naturelles comme ailleurs, il doit exister certaines notions que l'on pose comme règles pour apprécier la forme des déterminations, sans se demander quelle est la vérité, si elle est ainsi autrement. Je veux parler, par exemple, de la question de savoir s'il faut s'occuper à part de chaque être et le définir isolément, étudier la nature de l'homme, celle du lion, celle du bœuf ou tout autre animal, en les prenant chacun séparément, ou bien s'il faut d'abord procéder à une étude générale des traits communs à tous les animaux, à tous ces animaux. D'un côté, je regarde la nature, de l'autre côté, je regarde les propriétés. Nombre de choses, en effet, sont identiques dans beaucoup de genres qui diffèrent par ailleurs les uns des autres, comme le sommeil, la respiration, la croissance, la décroissance, la mort, ainsi que tout le reste des propriétés et des états du même genre. En parler maintenant serait en effet obscur et imprécis. Donc, voyez comment se fait cette généralisation. C'est par la propriété, en mettant entre parenthèses la nature. C'est en regardant l'universel. et en mettant entre parenthèses les principes propres. Il est clair que si nous traitons de plusieurs espèces les unes après les autres, nous serons amenés à répéter souvent les mêmes remarques. Le sommeil du rat est-il le même celui que celui de l'homme? Le sommeil de tel ou tel animal est-il le même que celui d'un autre animal? Oui. Alors on traiterait des natures différentes, et donc, au contraire, de l'autre côté, on traite du sommeil par rapport au vivant. Très intéressant ça, comme réflexion sur la méthode. Nombre de choses en effet sont identiques dans beaucoup de genres qui diffèrent par ailleurs les unes des autres, comme le sommeil, la respiration, et des états du même genre. En parler maintenant serait en effet obscur et imprécis, il est clair. Si nous traitons de plusieurs espèces, les unes après les autres, nous serons amenés à répéter souvent les mêmes remarques. Car chacune des fonctions que nous avons citées se retrouve chez le cheval, le chien, l'homme. En sorte que si l'on traite de leurs caractéristiques essentielles, en prenant chaque animal à part, on sera astreint à de fréquentes redites, à chaque fois que ces caractéristiques se retrouvent chez des animaux d'espèces distinctes et ne comportent en elles-mêmes aucune différence spécifique. Peut arriver pourtant, oui, c'est pas commode à répondre à ça. On voit très bien, le souci d'une science, c'est d'être universel. Et le souci de la philosophie, c'est d'atteindre la nature, les principes. Il y a comme une tension entre les deux. Et Aristote explique comment on arrive à cette attitude de regarder plus la méthode que la réalité. Il peut arriver pourtant que d'autres fonctions désignées d'un seul nom soient différentes selon les espèces, comme la progression des animaux. Celle-ci, en effet, ne se présente pas sous une forme unique. Il y a une différence entre le vol, la nage, la marche, la reptation. Aussi, ne faut-il pas laisser dans l'incertitude la façon dont l'examen doit être conduit, c'est-à-dire qu'il faut choisir. Ou bien, c'est-à-dire qu'il faut choisir ou bien d'étudier les fonctions communes par genre, puis en dernier lieu, celles qui sont propres à chaque espèce, ou bien d'examiner tout de suite chaque espèce en particulier. Car c'est là un point qui n'est pas encore fixé, non plus que le suivant. Est-ce que le naturaliste, à l'instar des mathématiciens, dans leur démonstration sur l'astronomie, doit commencer par constater les faits relatifs aux animaux et étudier les parties propres à chacun d'eux, pour pouvoir ensuite expliquer le pourquoi et les causes, ou bien doit-il procéder autrement? Donc une série d'interrogations, hein, il ne traite pas, il laisse. Vous voyez, c'est très intéressant comme attitude réflexive de recherche. Aristote est le premier qui fait une philosophie du vivant. C'est pas étonnant que de fait il se demande. Il n'a pas posé le cas pour la physique. Il ne pose pas le cas pour la métaphysique. Il pose le cas propre au vivant. Une interrogation propre au vivant. Faut-il étudier chaque espèce en particulier et les propriétés de cette espèce, faut-il étudier au contraire, de façon générale, ce qui caractérise le vivant, quitte à ajouter ensuite que certains vivants ne sont pas comme ça. Donc ce n'est pas une propriété du vivant. Ça caractérise tel vivant. Ou au contraire, saisir des propriétés qui soient propres au vivant. De plus, vous voyez, saisissez bien, c'est intéressant de voir toutes les questions qu'Aristote se pose. Vous voyez, les apories au niveau de la méthode. Les apories au niveau de la connaissance, vous les avez en philosophie première. Ici, c'est des apories au niveau de la méthode. C'est pas étonnant, parce que ça n'a pas encore été traité. De plus, étant donné que nous apercevons plusieurs causes en tout devenir naturel, par exemple, celle qui explique en vue de quoi et celle qui explique à partir de quoi se produit le mouvement, il faut déterminer, là encore, laquelle est par nature première et laquelle seconde. L'ordre des causes fait partie de la méthode. Je crois que même c'est cela qui caractérise la méthode philosophique. C'est intéressant de voir qu'Aristote pose la question ici. Ce que la scolastique a complètement oublié. La scolastique voit toujours les quatre causes, c'est tout. Il faut étudier les quatre causes. Attention. Il y a un ordre dans les quatre causes. Et cet ordre dans les quatre causes caractérise justement le cheminement et la méthode propre de telle ou telle étude philosophique, de telle ou telle réalité. Donc c'est dit ici explicitement. Il semble que la première soit celle que nous appelons en vue de quoi ? Semble, car elle est raison, et la raison est principe, aussi bien dans les productions de l'art que dans celles de la nature. Alors là, c'est aussi très important à bien noter. Logos. Logos est arché, car elle est raison, et la raison est principe. Alors, raison, c'est logos. Le en vue de quoi est à logos. Donc, la finalité est logos. Ce que nous disons, enekotinos, logos, gar autos. Ici, dans cette précision d'Aristote, c'est très intéressant de voir qu'il montre que le logos traduit raison. Oui, comme c'est difficile. Et en vue de quoi ? Or, le logos est arché. Montrer que le en vue de quoi est cause, principe. Parce que le en vue de quoi est logos. C'est-à-dire détermine. Et source d'intelligibilité. C'est ça le logos, c'est la source d'intelligibilité. Il semble que la première soit celle que nous appelons en vue de quoi, car elle est logos. Et le logos est principe, aussi bien dans les productions de l'art que dans celles de la nature. C'est en effet, après avoir déterminé par le raisonnement ou par l'observation, le médecin, le médecin ce qu'est la santé, l'architecte ce qu'est la maison, qu'ils appliquent l'un et l'autre les raisons et les causes de chacun des actes qu'ils accomplissent et pourquoi il faut agir ainsi. Donc on essaie de comprendre un tout petit peu cette découverte de la finalité. C'est très intéressant de souligner, il semble bien, pas plus loin, que ce qui commande tout en biologie, c'est la finalité. Voyez, Aristote y va très très lentement. Mais il faut bien voir que finalité et cause efficiente sont mises tout proches. Plusieurs causes en tout devenir naturel. Par exemple, celle qui explique en vue de quoi et celle qui explique à partir de quoi se produit le mouvement. Donc, les deux causalités toujours à voir quand il s'agit du vivant, c'est la cause efficiente, c'est m'avéré, et la cause finale. Laquelle des deux est première? Il semble bien que c'est la causalité finale. Pourquoi? Parce que la causalité finale est logos. Et que le logos est principe. Et donc, c'est bien la causalité finale qui commande tout. Vous voyez comment il montre que la causalité finale est principe par le logos. Ça demande beaucoup à réfléchir. Alors, si vous pouvez lire le texte d'Aristote avant, je crois que ça vous apporte beaucoup plus. Parce que en le lisant, vous posez des questions. Et en vous posant des questions, vous verrez si je les résous ou pas. Si je ne les résous pas, vous demandez une explication. Parce que ce sont des textes importants d'Aristote. Puis c'est la recherche de toute la question de la cause matérielle en biologie, qui est une chose extrêmement importante. Et puis la méthode.